Radio Capi.
Oh, Capi.
Le journal Pierrot et la Mégie.
Mesdames, Messieurs, voici le titre de votre journal. De nouveaux cas d'Ebola ont été notifiés dans la région de Butembo, Lubero, jeudi dernier, dans les zones de santé de Katwa et Biena. Le ministre provincial de la Santé indique que les deux malades sont déjà pris en charge, comme nous le dira notre correspondante Florida Kahambu dans ce journal. Quatre personnes ont été tuées hier jeudi dans la commune rurale de Mungwalu en Ituri. Ces incidents sont survenus lors des manifestations de certains habitants en colère pour dénoncer le meurtre des deux bouchers. Les forces de l'ordre ont tiré plusieurs coups de sommation pour disperser certains manifestants qui voulaient se livrer au pillage des biens de la population selon plusieurs sources. Recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kananga et ses environs, on en parle encore dans ce journal. Le président de l'Assemblée provinciale attribue cette situation à l'absence d'un gouvernement élu par les représentants du peuple. Vous suivrez Patrice Aimé Sesanga avant la fin de ce journal. Il est notre invité. Merci de suivre ce journal de Radio Capi mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Au Nord Kivu, de nouveaux cas d'Ebola ont été notifiés dans la région de Butembo, Lubero, jeudi dernier. L'un est de la zone de santé de Katwa dans la ville de Butembo et l'autre est de Mangour-Djipa dans la zone de santé de Biena, territoire de Lubero. D'après le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, les deux malades sont tous pris en charge à Butembo. Florida Kambo pour les détails.
L'un de ces deux cas est un contact du tout premier cas enregistré dans l'aire de santé de Masoya, zone de santé de Biena, dans les territoires de Lubero. D'après le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, le deuxième malade ne figure pas sur la liste des contacts des malades précédents. Toutefois, ce malade provient de la même zone de santé que le tout premier cas de cette 12e épidémie d'Ebola. Dr Nzanzu Salita Ejeune affirme donc que les investigations sont en cours afin de déterminer l'origine de sa contamination. Bien que provenant de Mangour-Djipa, dans la zone de santé de Biena, ce malade a été testé positif à Butembo. C'est ainsi que lui et l'autre cas de Butembo sont tous pris en charge sur place. Pour l'instant, l'identification des personnes contacts de ces nouveaux cas est en cours, indique le ministre. Ce dernier indique également que l'activité de vaccination des contacts directs et indirects des malades déjà enregistrés se poursuit. Rappelons que ces deux nouveaux cas portent le cumul à 6 malades d'Ebola déjà enregistrés dans la région de Butembo-Lubero pour cette 12e épidémie, dont 2 décès. Butembo, Florida Kahambu, Radio Capi.
Restons à Butembo où le réseau pour les droits de l'homme Redo en sigle déplore le manque des dispositifs de contrôle dans le cadre de la lutte contre Ebola au niveau des points d'entrée et sortie de Butembo. Dans une déclaration faite à Radio Capi ce vendredi, cette organisation des droits humains appelle les autorités du pays et tous les partenaires du gouvernement à se servir de l'expérience de la 10e épidémie pour vite arrêter cette 12e épidémie d'Ebola dans la région. Si les dispositions ne sont pas prises à temps pour prévenir la propagation, cette ONG locale redoute un embrasement de la situation. Maître Mouindo Wasivinia, coordonnateur du Redo, le dit au micro de Sadiki Aboubakar.
Notre crainte est que la maladie puisse se propager dans toute la zone, notamment le Grand Nord Kivu avec 17 zones de santé de l'antenne de la DPS Butembo. Si les équipes ou les experts de la santé pouvaient essayer de prendre des précautions pour que la maladie ne puisse pas sortir dans les trois zones déjà affectées, ça serait une bonne chose. Nous avons eu à visiter le point d'entrée route Butembo-Beni à Kangote, rien n'est fait. Nous sommes allés voir le point d'entrée de Kiambo route Lubero, rien n'est fait. Nous sommes allés vérifier si la route Kiondo, la route Vuhuvi, la route Butuhe, la route Vuinga et d'autres. Jusque-là, rien n'est fait.
Ces mesures-là dont vous parlez, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qui devrait être mis en place à ce niveau?
Avec l'expérience de la 10e épidémie, on pouvait faire le screening, on voyait pas la température quand ça dépasse plus de 38. On était suspect. On avait obligé les gens à se laver les mains. Au niveau des points d'entrée, il y a beaucoup de cas suspects et qui ont été constatés malades après vérification. Mais aujourd'hui, rien ne s'est fait. On ne sait pas si on attend quoi.
Tous nos efforts pour avoir la réaction du ministre provincial de la Santé du Nord qui voit ce sujet n'ont pas abouti. Mais au début de l'épidémie, le ministre Nzanzu Salita avait demandé aux autorités des bases de prendre chacun des dispositions face à ça. Le maire de la ville de Butembo avait à son tour soulevé le problème de moyens financiers. L'ambassadeur de la République de Chine a remis 5 respirateurs à la présidence de la République ce jeudi. C'est le chef de la maison civile du chef de l'État, Dr Bruno Mitéo Nyenge, qui a réceptionné ce lot de matériel. Pour Zhong Jing, l'ambassadeur chinois à Kinshasa, ces respirateurs permettront à lutter contre la COVID-19 dans le centre hospitalier de Kinshasa qui en bénéficieront. On écoute Zhong Jing, l'ambassadeur de Chine, au micro de Richard Junior Kamunga.
Pour accompagner le peuple congolais à gagner la lutte, la victoire finale contre la pandémie COVID-19. Donc, pour aider nos amis, il faut que les aides soient bien ciblées. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi des respirateurs, parce que ce sont des machines qui se manquent dans le pays, et ce sont des machines, des équipements qui sont essentiels, même cruciaux, pour sauver les malades qui sont les plus graves, les plus sévères. Ce sont des équipements pour sauver la vie. Et ces équipements, j'espère bien qu'ils pourront aussi contribuer dans l'avenir, même après la victoire contre la pandémie COVID-19, à renforcer la capacité des hôpitaux congolais à traiter d'autres patients, à améliorer la santé publique du peuple congolais. Et ce n'est pas tout. Dans la Chine, on est prêt à accompagner durablement et à long terme nos amis congolais à renforcer son système sanitaire.
En Ituri, 4 personnes ont été tuées hier jeudi dans la commune rurale de Mungwalu, à 80 km au nord de Bunia, dans le territoire de Djougou. Parmi les victimes, 2 sont mortes et 4 autres ont été grièvement blessées par balles lors des manifestations de certains habitants en colère pour dénoncer le meurtre de deux bouchers. Selon des sources concordantes, les forces de l'ordre ont tiré plusieurs coups de sommation pour disperser certains manifestants qui voulaient se livrer au pillage des biens de la population. Isaac Remoyope.
La commune de Mungwalu s'est réveillée hier sous une forte tension après le meurtre des deux bouchers dont les corps ont été découverts dans un caniveau à la périphérie de Mungwalu. Certains jeunes ont manifesté presque toute la journée pour exprimer leur mécontentement face à la persistance de l'insécurité dans cette zone minière. Les éléments de la police étaient en alerte pour contenir la foule en vue d'éviter des dérapages. Ils tiraient des coups de sommation pour disperser les manifestants. Ces coups de feu se sont intensifiés les soirs pour empêcher les pillages de certaines maisons par des manifestants. Selon les bourgmestres, deux personnes ont été touchées par des balles perdues et sont mortes après quelques heures. 4 autres personnes ont été blessées. Jean-Pierre Bikilisende ajoute qu'un calme s'observe depuis ce matin dans cette entité. Certaines sources indiquent que la situation peut dégénérer à tout moment car les corps des deux dernières victimes et des deux autres tués le matin ne sont pas encore inhumés. Pendant ces temps, un fort dispositif est déployé à Mungwalu Centre où on signale également la présence des miliciens de la CODECO qui créent l'insécurité dans la zone. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Bukavu ce jeudi 18 février 2021 après-midi a fait des dégâts humains. 2 personnes sont mortes emportées par les eaux, des ruissellements, des maisons sont inondées et des engins roulants emportés par le courant d'eau. Emmanuel et le Mejoua Kabedi.
La pluie s'est abattue sur l'ensemble de la ville de Bukavu jeudi après-midi et pendant plus de 4 heures durant. Du coup, les avenues et autres artères sont envahies des eaux de ruissellement allant en direction du lac Kivu. L'avenue industrielle en commune de Kadutu est vite transformée en une rivière qui coule à grande vitesse. Les témoins affirment qu'un enfant d'une dizaine d'années a perdu la vie et son corps a été retrouvé loin de là au niveau de la place de l'Indépendance. D'autres sources parlent d'un autre corps découvert dans la commune du Banda au quartier Ponzi. Le chef de quartier Ndendere en commune du Banda évoque 2 véhicules et 3 motos emportés par les courants d'eau. Au quartier Nalukemba, c'est plus de 65 maisons qui sont inondées et qui présentent des fissures dangereuses. Ici et là, la cause principale de ce genre de dégâts reste le manque de l'urbanisation et les constructions anarchiques. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Au Nord Kivu, une mission des différentes sections de la MONUSCO Beni ainsi que les responsables militaires du secteur opérationnel Sokola 1 s'est rendue ce jeudi à Mutwanga, chef-lieu du secteur de Rwenzori, pour évaluer la situation sécuritaire caractérisée par l'activisme de l'ADEF. Conduite par la chef des bureaux de la MONUSCO Beni, Madame Cecilia Piazza, cette délégation s'est entretenue avec le chef des secteurs Bozi, Cindy Wako, qui à son tour a présenté cette situation qu'il a qualifiée de très préoccupante et complexe. Au sortir de cette rencontre, Madame Cecilia Piazza a promis le soutien total de la MONUSCO aux autorités locales et au FRDC. Elle est au micro de Sekombi Katondolo.
De la situation qui règne dans son secteur depuis maintenant 2 mois, une situation qui est très préoccupante, qui est complexe, Et la réunion a servi aussi à souligner toute la complexité de la situation. Je lui ai également assuré de notre soutien total par rapport à la situation sécuritaire ici. Nous avons maintenant une base à Mutwanga qui s'ajoutait à celle de Kilia, que l'on a renforcée suite au dernier incident. Et nous allons rester à côté de l'autorité comme également des FARDC. Voilà, je tenais à venir pour lui assurer de notre soutien et ceci de façon personnelle.
Le gouverneur du Sud Kivu souhaite que les bandits qui sèment la terreur à Bukavu et qui sont arrêtés soient condamnés avant d'être envoyés ailleurs pour purger leur peine. Théo Ngwabidi Kassi l'a dit hier jeudi à Bukavu lors de la présentation officielle par la police des 38 présumés bandits à main armée. La présentation s'est déroulée en présence du procureur général près la cour d'appel de Bukavu et des autorités municipales. Ces bandits sont accusés de meurtre et assassinat, vol qualifié et association des malfaiteurs. Le gouverneur Théo Ngwabidi Kassi est au micro de Michel Chirimouami.
Je tenais d'abord à féliciter notre police nationale congolaise pour le coup de filet qui n'est pas le premier. Vous avez vu même constater des criminels qui ont insécurisé la ville de Bukavu. On ne dit pas qu'on les a tous attrapés. C'est un travail qui va se poursuivre pour que demain la paix revienne. Vous avez aussi constaté avec moi comment ces gens opèrent dans des bandes organisées. Nous avons interpellé les juridictions compétentes. Ici, nous passons à la justice civile et militaire pour que ces gens soient jugés rapidement et qu'ils soient jugés au cours des audiences foraines là où ils ont opéré. Un criminel qu'on a attrapé à Kadutu, il a commis le crime à Kadutu. Il doit être jugé à Kadutu, si c'est à Bagira ou c'est à Ibanda. Et rapidement, après leur condamnation, nous devons tout faire pour qu'ils soient transférés en dehors de la province du Sud Kivu. Nous devons aussi mener les enquêtes pour que ces auteurs intellectuels soient aussi traduits en justice.
À la veille de la reprise des cours, les écoles sont prêtes à accueillir les élèves. C'est ce qu'affirment les directeurs de la province éducationnelle Kasaï Central 1 ce jeudi à Radio Kapi. Il a ainsi recommandé aux parents d'apprêter les fournitures scolaires pour leurs enfants et aux acteurs pédagogiques au respect de cette date des reprises. Léon Tosusui est au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Les écoles sont prêtes. Dès le premier jour, les cours commencent. Chef d'établissement, convoquez les réunions avec vos enseignants déjà le samedi. Prenez toutes les dispositions pour que lundi, ça soit le début des cours dès la première heure. Chers parents, préparez déjà les enfants.
Quelles sont les dispositions prises pour éviter que les établissements scolaires ne se transforment pas en foyer de contamination à la COVID-19?
Et pour ça, je dois dire merci beaucoup à notre partenaire traditionnel, l'UNICEF. Pendant cette période, l'UNICEF venait de doter nos écoles primaires des kits de lavage de mains, des savons, des thermoflash pour les 4 sous-divisions ciblées par le parti. Et pour toutes ces écoles-là, on a un minimum nécessaire pour se protéger contre la pandémie. Et lors de la première vague de la pandémie, le ministère nous avait donné un protocole d'accord de lutte contre la COVID. Et ça, nous avons vulgarisé dans toutes les écoles et nous avons instruit tous les chefs d'établissement.
Actualité internationale.
L'Iran a réitéré ce vendredi 19 février son appel aux États-Unis pour une levée de toutes les sanctions imposées par l'ancien président Donald Trump après une offre de pourparlers de la part de l'administration du nouveau président Joe Biden. Téhéran annulera immédiatement ses mesures de rétorsion si les États-Unis lèvent sans condition toutes les sanctions imposées, réimposées ou rébaptisées par Trump, a tuté le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. Il a souligné que l'Iran était d'accord avec la décision de l'administration Biden de revenir sur l'affirmation largement discréditée de son prédécesseur selon laquelle l'ONU avait imposé de nouvelles sanctions liées au programme nucléaire de Téhéran. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé ce jeudi 18 février la dissolution du Parlement et l'organisation d'élections législatives anticipées. L'annonce a été faite lors d'un discours à la Nation, une semaine après son retour d'Allemagne où il était soigné à la suite des complications liées au coronavirus. Autre geste d'apaisement, la grâce présidentielle accordée à une cinquantaine de militants du Hirak. Cela concerne notamment une trentaine de personnes condamnées en début de semaine à des peines allant jusqu'à 2 ans de prison ferme.
L'invité.
Comme je le disais tout à l'heure dans les titres au Kasaï central, le président de l'Assemblée provinciale s'inquiète de la recrudescence de l'insécurité à Kananga et ses environs. et il attribue cette situation à l'absence d'un gouvernement élu par les représentants du peuple. Il recommande ainsi l'organisation rapide de l'élection du nouveau gouverneur qui, selon lui, devra mettre fin non seulement à l'insécurité mais également à plusieurs autres problèmes à travers la province. Patrice Emesisanga s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Président Patrice Emesisanga.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Quel tableau dressez-vous de la situation sociopolitique et sécuritaire de la province du Kasaï central?
La situation sociopolitique, sécuritaire est catastrophique dans notre province. Cela est dû à l'absence de l'autorité. Comme vous le savez, à la tête de la province, il n'y a pas un gouverneur. Nous avons, par l'Assemblée provinciale, déchu le gouverneur Martin Kabuya. Eh bien, on a vidé le processus sur cette question, mais nous sommes étonnés de constater que ça prend longtemps, alors que le vide est connu de tout le monde, du pouvoir central, de la CENI, de la province, mais on ne parvient pas à organiser l'élection par la CENI pour qu'on trouve un autre gouverneur qui doit prendre les affaires en main. Parlant de l'insécurité qui règne, vous savez que à Kananga, les gens ne dorment pas. À 23 heures, tout le monde est dehors pour veiller, pour savoir est-ce que la nuit ira jusque le matin sans qu'il y ait de familles qui sont visitées par des hommes armés. Donc c'est si nous pensons que on devait aller vite pour élire un autre gouverneur qui puisse prendre les affaires en main.
Au niveau de l'Assemblée provinciale, avez-vous déjà saisi à votre hiérarchie pour faire savoir l'absence du gouvernement élu à la tête de la province?
Nous avons écrit au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour montrer cette situation qui prévaut dans notre province et pour démontrer qu'il y avait urgence d'organiser les élections. Donc c'est à eux, avec la CENI, de proclamer la date d'élection. Nous insistons, il faut qu'on les fasse le plus rapidement possible. Parce que quand vous parlez de l'insécurité, mais je vous ai dit tantôt que les gens ne dorment pas. À Kananga, on n'est pas sûr de faire la nuit et de voir le soleil. Parce que tous les jours, les hommes en armes, je n'ai pas de précision si ce sont des militaires, si ce sont des policiers ou si ce sont mais des gens qui se présentent en tenue avec des armes en main pour embêter la population.
Alors, quelle est la part de l'Assemblée provinciale, la première institution politique en province, pour mettre fin à cette situation?
Bon, de notre côté, nous n'avons qu'appuyer sur la sonnette d'alarme. Nous avons fait voir aux autorités qui ont cette compétence. Je crois que la CENI et le gouvernement, nous avons tenu informer le président de la République parce que je ne connais pas un article qui dit que c'est le ministre de l'Intérieur qui doit donner injonction à la CENI. Moi, je pense que dès que le vide se crée, ça peut être au Sénat, ça peut être à l'Assemblée. Il y a un député qui perd le poste par des conditions prescrites par la loi. Il y a tous les suppléants qui n'existent plus. Donc, un vide se crée. Eh bien, il revient à la CENI d'organiser l'élection partielle pour que le vide soit comblé. S'agissant de l'élection du gouverneur, nous pensons que nous avons démontré que le vide est créé. Nous avons en place le ministre de l'Intérieur qui assume l'intérim, mais je crois que l'autorité attitrée, c'est le gouverneur élu par l'Assemblée qui doit prendre les choses en main.
En cette période, quel message lancerez-vous à la population qui compte beaucoup sur votre institution?
Bon, c'est vrai, la population compte sur l'Assemblée provinciale, mais les prérogatives de l'Assemblée provinciales sont limitées. Nous n'avons aucun autre moyen pour parer à la situation d'insécurité que d'aviser et de démontrer la situation qui prévaut dans notre province. La situation qui est particulière à notre province, c'est le type d'insécurité que nous vivons aujourd'hui. L'Assemblée ne demande pas autre chose qu'il soit permis à la CENI de venir organiser l'élection du gouverneur. En ce moment-là, l'Assemblée provinciale aura les yeux tournés vers le gouverneur pour que les choses reviennent à la normale. Parce que dernièrement, deux députés provinciaux ont été visités et les armes ont crépité aux alentours de leur résidence. Nous rassurons la population que nous portons cette situation à l'oreille de ceux qui ont la responsabilité d'organiser les élections et d'apporter des solutions.
Patrice Emesisanga, le plaisir était le nôtre de vous avoir comme invité.
Il était le mien aussi de vous rencontrer.
Et nous disons merci à toute l'équipe qui a concru à la production de ce journal. Il a été mis en nom de par Dieudonné Nyangassa, Richard Junior Kamunga l'a coordonné sous la supervision de Julien Nyamweni. Quant à moi, Pierrot et la Meiji, je vous retrouve tout à l'heure à 13h, heure de Kinshasa. Mais ce journal et l'ensemble de nos informations sont sur www.radiocapille.net.